Donc l'épître de ce quatrième dimanche de carême vient de saint Paul aux Galates. Mes frères, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre selon naquit en vertu de la promesse. Ceci a été dit par allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une sur le mont Sina, qui enfante pour la servitude, et c'est Agar, car Sina est une montagne d'Arabie qui correspond à la Jérusalem d'à présent, laquelle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile qui n'enfante pas, éclate, pousse des cris de joie, toi qui ne deviens pas mère, parce que les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Pour nous, mes frères, nous sommes comme Isaac, les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chassez l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point les enfants de l'esclave, mais de la femme libre, et c'est le Christ qui nous a acquis cette liberté. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade, et une multitude nombreuse le suivait, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta donc sur une montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, jour de fête des Juifs, était proche. Ayant donc levé les yeux, voyant qu'une très grande multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger? Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, dis donc, faites asseoir ces hommes, or il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit alors les pains, et en rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons tant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, pour qu'ils ne se perdent pas. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui étaient restés des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces hommes ayant donc vu le miracle qu'avait fait Jésus, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'assit de nous, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Veuillez vous asseoir. Donc cet après-midi, j'irai assurer la messe. Comme je fais une fois par mois à Nissas, près de Clermont-l'Hérault, dans l'Hérault. J'ai également placé sur le site Dame Marie la troisième conférence sur le modernisme, la synthèse du modernisme. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez l'écouter et la télécharger. Au niveau des retraites, il reste déplace toutes les retraites sauf la première. Donc ceux qui écoutent sur Internet, qui sont intéressés par ces retraites d'exercice Saint-Ignace, ils n'attendent pas le dernier moment pour s'inscrire, s'il vous plaît. Je vous rappelle que pour la Semaine Sainte, tous les offices auront lieu au gîte où je prêche les exercices. C'est important pour ceux qui viennent ici de temps en temps, qui ne sont pas des réguliers ici, pour qu'ils ne se retrouvent pas à la porte. Donc j'ai placé à l'entrée de la chapelle un papier avec tous les renseignements pratiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, les anciens appelaient ce dimanche, dimanche de la mi-carême, un dimanche un peu de joie à cause du premier mot de l'étroïte, réjouissez-vous, laetorei, dimanche laetorei. C'est pour ça que l'Église fait une exception carême et donc autorise les vêtements roses qu'on n'utilise que 2 fois par an. Quatrième dimanche de carême et troisième dimanche de l'Avent, et qu'on a droit aux fleurs aussi sur l'autel, à cause de cette joie qui, parce que la passion arrive bien sûr, mais en même temps la résurrection, notre salut. Et je voudrais aujourd'hui, mes bien chers frères, vous parler, comme me demande l'Église, vous parler un peu de ce passage de l'état d'esclavage à l'état de liberté. L'esclavage, c'est l'esclavage dans le péché. La liberté, c'est la liberté avec notre Seigneur Jésus-Christ. Liberté de pouvoir se mouvoir dans le bien, c'est ça la liberté. Et pour justement nous amener de l'esclavage à la liberté, l'Église catholique nous demande, au moins une fois par an, d'avoir à faire sa confession, sa communion pascale. C'est bien le minimum. En fait, il est pratiquement impossible de rester en état de grâce sur ce qu'on fait ce qu'une fois par an. Enfin, c'est un minimum. Imaginez qu'un médecin vous dise, voilà, écoutez, pour survivre, il faut manger au moins une fois par semaine. Bon, alors, il ne faut pas se dire, bon, le médecin m'a dit que je pouvais manger au moins une fois par semaine, donc je ne mange qu'une fois par semaine. Vous n'allez pas être très brillant si vous ne mangez qu'une fois par semaine, c'est évident. Et c'est la même chose pour la confession et la communion. On a besoin de se confesser souvent. On a besoin de communier souvent aussi pour justement obtenir toutes les grâces dont on a besoin. La plupart des grâces viennent par ces deux sacrements essentiels. Sacrement de la Sainte Confession et le sacrement de la Sainte Eucharistie. Alors, je voudrais un petit peu vous rappeler l'enseignement du catéchisme sur ce sujet. On a beaucoup de mal à comprendre que la confession, c'est d'abord l'acte de la miséricorde. On comprend la justice de Dieu, mais la miséricorde est presque incompréhensible pour nous. Je vais souvent citer cet exemple de Monseigneur Lefebvre, que Monseigneur Lefebvre nous donnait, vous savez il a été prêtre en Afrique pendant très longtemps. Et on lui disait qu'il n'arrivait pas à expliquer aux petits noirs d'Afrique, où il était en Côte d'Ivoire, au Gabon, il n'arrivait pas à expliquer aux petits noirs la miséricorde. Parce que quand il expliquait à ces gens de ces pays très simples, en grande pauvreté, que notre Seigneur Jésus-Christ était un grand roi qui punissait les méchants, tout le monde comprenait. Vous comprenez. Et quand il essayait d'expliquer à ses enfants que notre Seigneur Jésus-Christ était un roi plein de miséricorde, qui pardonnait aux pécheurs repentants, qui pardonnait même à ses ennemis s'ils se convertissaient, les enfants éclataient de rire, nous disait Monseigneur Lefebvre, incapables de comprendre. Parce que pour eux, un roi qui pardonne, c'est un roi faible. Et il faut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ augmente encore davantage sa gloire accidentelle par le pardon que par la création du monde entier. Une chose qu'on a un mal fou à comprendre. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord pour pardonner. Ça prend son premier rôle. Il l'a dit expressément. Il l'a dit expressément en disant que il a expliqué de venez à moi pour que je puisse vous refaire. Parce que je suis doux et humble de cœur. Il n'a pas dit, venez à moi parce que je suis le grand roi, venez à moi parce que je suis doux et humble de cœur. Et il rajoute, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui font pénitence, qui n'ont pas besoin de faire pénitence, justement. Il faut comprendre le désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur ne peut pas augmenter sa gloire substantielle, parce qu'elle est infinie. Mais il peut augmenter sa gloire accidentelle. Et à chaque fois qu'il pardonne un pécheur repentant, il augmente cette gloire accidentelle. Donc la plus grande joie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de pardonner un pécheur repentant. Attention, ne pas oublier le dernier mot. Pécheur, oui, mais pécheur repentant. On peut donner d'exemples. Puis ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même aux apôtres plusieurs fois. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Les malades, c'est qui? C'est nous. Peut-être le plus bel exemple, cette miséricorde du bon Dieu, c'est ce qu'il a fait juste avant de mourir. Juste avant de mourir, il y avait un bandit à sa porte, à la porte de sa mort. Juste à côté de notre Seigneur Jésus-Christ qui était crucifié le vendredi saint au calvaire, il y avait 10 minces. Le bon larron, qu'est-ce qu'il va dire? Souvenez-vous de moi, Seigneur, souvenez-vous de moi, Seigneur. Et qu'est-ce que va dire notre Seigneur? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis.
Dis-moi, ça fait quoi? Un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Pourtant, il a fait des bêtises toute sa vie, il a fait que ça pratiquement. Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. Acte de foi, d'espérance, de charité. Je reconnais que vous avez un pouvoir spécial parce que vous avez un royaume dans lequel vous allez aller, parce que vous êtes Dieu. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ va l'envoyer au purgatoire pendant 3 ou 4 siècles? Non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ne pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ, la première personne qui va profiter en quelque sorte des grâces de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est un bandit. Un bandit. Et l'Église l'a canonisé. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a canonisé. Et il est fêté le 25 mars. Parce que la tradition dit que le premier vendredi saint est un 25 mars, le jour de l'Annonciation. Donc la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ en ce monde, dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, même jour. Et donc Saint Dispace est canonisé, et dans le martyrologe, on trouve son nom au 25 mars. Vous voyez, ce que cela nous aide à comprendre l'importance de la confession. Strictement parlant, ce temps pascal, temps pendant lequel la confession et la communion est obligatoire, au moins une fois par an, strictement parlant, canoniquement parlant, c'est du dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques, jusqu'au dimanche après Pâques, dimanche de Quasimodo. Dans la pratique, l'Église a élargi cette période, ça dépend beaucoup des pays, même des évêchés, et très souvent, la plupart des évêchés en France, le temps pascal va soit du premier dimanche de la Passion, donc dimanche prochain, jusqu'au dimanche après la Pentecôte, dimanche de la Sainte Trinité. Soit même parfois, dans certains diocèses, depuis le premier dimanche de Carême jusqu'au dimanche de Sainte Trinité. L'Église donc élargit encore ses portes pour permettre à des tas de gens de se confesser. Donc il faut profiter de ce temps. Je voudrais un petit peu vous rappeler ces choses-là qui sont tellement importantes. Je vous rappelle les choses que vous connaissez déjà. Donc essayons de voir comment faire une bonne confession. Je vous conseille beaucoup de profiter de ce temps de carême, cette deuxième partie de carême, pour essayer de faire une confession générale. Soit dans certains cas, confession générale toute la vie, soit une confession générale depuis la dernière fête de Pâques. Enfin, chacun un petit peu s'organise un peu comme il veut. Mais essayez de faire une bonne confession générale et puis n'hésitez pas à me passer un coup de téléphone. Je vous attends les derniers moments parce que je vais être très pris la semaine avant Pâques, la semaine sainte, parce que je vais prêcher une retraite. Et n'hésitez pas à passer un coup de téléphone. Je vais quand est-ce que vous pouvez me confesser. Et puis je vous confesserai. Bien sûr. Parce que s'il y a une grande joie pour notre Seigneur Jésus-Christ de pardonner les péchés, permettez-moi de vous dire qu'il y a la même joie pour le prêtre. La plus grande joie du prêtre, c'est de pardonner les péchés. Alors essayons de voir dans quelles circonstances, quelles sont les circonstances dans lesquels que le démon utilise, si vous voulez, pour essayer de vicier les confessions, d'empêcher les confessions d'être valides. D'abord, il faut se rappeler un certain nombre de règles générales. La première règle qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faut se convaincre que le péché est l'unique vrai mal. Les maux naturels qui arrivent, les tempêtes, les accidents, les problèmes de santé, tout ça, ce sont des maux relatifs. Le seul mal absolu, c'est le péché. Il est triste de voir que des gens sont extrêmement inquiets sur les maux naturels, qu'ils oublient les maux surnaturels. La pire des offenses qu'on puisse faire à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le péché grave. Donc, c'est se convaincre que le péché grave est l'unique vrai mal. Se convaincre aussi que le plus important pour chacun d'entre nous, c'est la conversion du cœur. Conversion du cœur. Ça veut dire quoi la conversion du cœur? Convertere en latin, c'est se tourner vers. On est un peu tous pareils, vous savez, moi le premier, on aime bien notre Seigneur Jésus-Christ, on le lui dit tous les matins, mais on aime bien le monde aussi. Un exemple qu'on peut prendre, imaginez quelqu'un qui regarde, il est au bord de la ville, il y a plein de bruit, il y a toutes les lumières de la ville. Et puis il y a un beau coucher de soleil. Il est au bord de la ville, sur les remparts autour de la ville, il regarde la campagne avec un beau coucher de soleil. Mais en fait, il s'est retourné, il regarde les lumières de la ville. Et il dit, oui, il y a un beau coucher de soleil. Mais il regarde la ville. Pourquoi?
Parce qu'il y a un beau coucher de soleil, mais il est très attiré par les lumières de la ville. On est tous comme ça, un petit peu. On dit au bon Dieu, voilà mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, je vais tout faire pour éviter le péché. Je vais vivre comme un bon catholique, je vais me couper de l'esprit du monde, parce que cet esprit du monde est incompatible avec l'esprit de la croix. Mais on passe sa vie à la fenêtre en regardant les gens dehors, en disant, quel dommage que je ne puisse pas être comme eux. Ils font toutes les bêtises qu'ils veulent. Et moi, je suis obligé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, suivre sa loi. On est souvent comme ça, mes bien chers frères. Donc, demandons cette grâce, qui est voilà pour tout le monde, pour moi aussi, la grâce de se convertir, conversion du cœur, se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas donner ses grâces à quelqu'un qui veut partager la gloire de Dieu avec la gloire du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ veut la place complète. Si je dis à notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez, je vous aime bien, mon Dieu, je veux bien que vous rentriez dans mon cœur, mais vous ne prenez pas possession de tout. Je vous donne un petit coin dans une partie de mon âme, et puis le reste, c'est pour le monde. Une partie pour vous, une partie pour le monde. Comme ça, tout le monde est content. Mais non. Notre Seigneur Jésus-Christ ne partage pas sa gloire. Si on exige de notre Seigneur qu'il partage sa gloire avec celle du monde, il s'en va. Il quitte l'âme. Alors, essayons de voir comment le démon travaille. Il travaille, à mon avis, surtout avec les catholiques, évidemment, parce que les catholiques sont gibier de choix pour le démon, surtout les catholiques de tradition. Le démon n'a pas besoin de travailler avec les païens. Les païens vont en faire tout seul. Par contre, les catholiques s'en occupent d'une façon toute spéciale. Les premières fissures qu'il va utiliser dans le mur de protection autour de l'âme, c'est que très souvent, on a une contrition purement naturelle. Dans la liste des conditions que donne le catéchisme du Concile de Trente, pour que la contrition soit réelle, il est dit d'abord que la contrition doit être surnaturelle. Surnaturelle, ça suppose une contrition naturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une contrition naturelle ? C'est très fréquent, hélas. Je regrette mes péchés pour des raisons purement naturelles. Un classique qu'on condamne en général, c'est imaginer quelqu'un qui a trop bu et qui a fait du n'importe quoi dans la famille parce qu'il avait trop bu, il a tout cassé dans la maison, il s'est battu avec sa femme et ses enfants, et il s'est comporté comme dernier des derniers parce qu'il avait bu un coup de trop. Et du coup, tout le monde lui fait la tête. Et il vient se confesser parce que tout le monde lui fait la tête à la maison. Donc il annonce, voilà, je vais me confesser, sous-entendu, comme ça j'aurai la paix. C'est une contrition naturelle. Ça vaut rien devant Dieu. Il faut une grâce surnaturelle. Il ne faut pas oublier ça. Le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui elle lui demande, mais on a besoin de ce qu'on appelle une grâce actuelle pour regretter ses péchés de façon surnaturelle. On ne peut pas regretter ses péchés de façon surnaturelle par la force de notre volonté propre. Ce qu'on appelle du pélagianisme, c'est une hérésie. Et même les semi-pélagiens disaient qu'on est capable de se mettre au moins au début du chemin qui mène vers Dieu par la force du poignet. Non. Même pour se mettre au début du chemin qui me mène à la conversion, j'ai besoin d'une grâce actuelle du bon Dieu. Par moi-même tout seul, je suis incapable de faire ça. Donc il faut demander la grâce d'un regret surnaturel de nos péchés. C'est la première fissure. Deuxième fissure que va utiliser le démon pour essayer de nous faire rater notre confession de carême, le catéchisme dit aussi que la contrition, plus exactement la douleur, doit être suprême. Ou souveraine, les deux traductions. Ça veut dire souveraine. C'est-à-dire le degré de contrition que j'ai parce que j'ai perdu Dieu doit être supérieur au degré de contrition que j'ai parce que j'ai perdu une chose matérielle. Si vous perdez les choses matérielles auxquelles vous tenez beaucoup, vous regrettez bien d'avoir perdu cette chose matérielle. Mais il faut comprendre, encore une fois, on revient à ce que je viens de vous expliquer juste avant, que le plus important, c'est la conversion du cœur. Je suis convaincu que le péché lui dit vrai mal. Donc, je dois avoir une contrition souveraine parce que j'ai perdu l'être affidé qui est Dieu. Avoir plus de regrets parce que j'ai perdu le bon Dieu que de regrets parce que j'ai perdu une chose matérielle. Vous faites voler votre voiture. Ah, c'est grave, ça. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons que commettre un péché mortel, c'est plus grave que se faire voler sa voiture ? Alors si je me fais voler ma voiture, on va m'entendre parler pendant 3 mois, Par contre, si je me fais voler l'état de grâce par le démon et que je perds l'état de grâce et que je vis dans le péché mortel jusqu'au cou, alors là, on n'entend pas parler. Et donc, il faut réaliser ces choses-là qui sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Il faut avoir cette douleur suprême. Troisième faille utilisée par le démon, de nous pousser à garder dans notre vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave. Catéchisme en parle expressément en nous demandant d'avoir le ferme propos de ne pas recommencer. Ferme propos, c'est quoi? C'est prendre les moyens pratiques pour ne pas recommencer. Pour reprendre l'exemple que je vous donnais, imaginez quelqu'un qui vient s'accuser donc d'avoir bu un coup de trop parce qu'il a un problème de boisson, il s'est bu trop et puis il s'est disputé avec sa femme et ses enfants, il a tout cassé de la maison parce qu'il était ivre, et qui me disent, voilà, je regrette mes péchés. Et puis je pose quelques questions quand même, parce qu'il faut bien qu'on en pose. Je dis, bon, qu'est-ce que vous avez pris comme moyen pour ne pas retomber? Je vais faire attention. Qu'est-ce que vous avez pris comme moyen pratique pour ne pas retomber? Première question que je vais poser, c'est est-ce que vous évitez de garder l'alcool à la maison, tout simplement? Ah non, 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 je me suis acheté deux, trois caisses de vin, mais ils sont cachés là, quelque part dans le cagibi, au fond de la cuisine. Mais oui, mais vous jouez avec le feu, monsieur. Vous gardez une occasion prochaine volontaire de péché grave. Je ne peux pas vous donner l'absolution, parce qu'en fait, vous tombez dans un péché de présomption. Présomption. Et la quatrième fissure utilisée par le démon pour entrer dans notre âme, elle est aussi fréquente. Elle cache un péché. Ou cacher une circonstance importante du péché. C'est tout important pour les gens qui se confessent peu souvent. Parfois, des gens qui se confessent une fois par an, c'est pas assez, mais c'est le minimum requis par notre Seigneur et par la Sainte Église. Et quand on confesse des gens qui se confessent qu'une fois par an, nous devons nous prêter à faire très attention justement à assurer l'intégrité de la confession. Et on le voit tout de suite, nous prêtres, on a l'habitude de la confession, on le voit tout de suite. En général, quand quelqu'un qui ne s'est pas confessé depuis très longtemps, c'est des exemples que je donne bien sûr, commence par tous les petits péchés, et que le péché grave arrive à la fin de la confession, c'est un très mauvais signe. Si au contraire quelqu'un commence directement par le gros péché qu'il a fait, et ensuite les petits péchés, c'est un bon signe. Et quand je constate que la personne attend complètement la fin de la confession avant d'accuser le gros péché, là je suis obligé d'interroger. Et très souvent, il y a un problème à ce niveau-là. Alors, souvent, pas tout le temps, il y a un problème au niveau du nombre. Ils vont accuser, par exemple, c'est un exemple encore une fois que je donne, c'est pour expliquer, j'ai commis tel gros péché. Alors pour l'aider, si je sens qu'il y a une hésitation, je vais lui dire, j'ai commis tel gros péché, plusieurs fois, une dizaine de fois, oh non, 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 simplement trois fois. Donc j'aide en disant une dizaine de fois parce que je sais que j'aurai le bon nombre. Et si je n'avais pas posé cette question, il ne m'aurait pas avoué qu'il a commis ce péché trois fois. Donc il se rassure en disant, j'ai accusé mon péché, j'ai accusé tel péché grave. Oui, mais vous oubliez d'accuser, le catéchisme demande d'accuser le nombre, l'espèce, les circonstances. Et le nombre, c'est important. Surtout pour les péchés graves. Au moins donner une approximation. Pour quelqu'un qui fait une confession générale, on pourrait tolérer et accepter. Quelqu'un me dit, oh, monsieur l'abbé, j'ai commis tel péché trois fois par semaine pendant cette année passée. Oui, très bien. Vous voyez comment le démon travaille pour. On dit qu'il enlève la honte de l'âme pour que la personne commette le péché. Puis une fois que la personne a commis le péché grave, il va remettre la honte sur notre dos pour nous empêcher de l'accuser. Donc n'hésitez pas, mes bien chers frères, au confessionnal, on est là pour ça, on a des grâces d'État pour cela. N'hésitez pas à dire au prêtre, écoutez, monsieur l'abbé, j'ai un truc qui a à dire, mais c'est difficile à dire. Je ne sais pas comment le dire, et puis j'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai besoin d'un coup de main. Et le prêtre va vous aider. Le prêtre va vous aider. Et il ne faut pas dire, monsieur l'abbé, j'ai tellement honte, je ne peux pas vous le dire. Pff, en 40, 40 ans de sacerdoce, j'ai un peu tout entendu. Hein. Vous aurez du mal à me dire,
à me choquer, parce que, bon, encore une fois, on a tout attendu. Même si on me disait, ah, monsieur l'abbé, j'ai lancé une bombe atomique sur le voisin, j'ai écrabouillé 300 000 personnes, est-ce que vous regrettez? Oui. Bon, enfin, essayer de réparer un peu, mais est-ce que vous regrettez? Et c'est ça qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'il demandait? Contrition, accusation, réparation, c'est tout. Mais j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Contrition, réparation, accusation, contrition, c'est tout. Est-ce que vous regrettez? Oui, mais j'y ai fait beaucoup. Est-ce que vous regrettez? Tombez pas dans le péché de Judas. Quel était le péché de Judas? Le pire des péchés, c'est le péché de Judas. C'est pour ça qu'il n'a pas été pardonné. Judas a refusé de croire en l'infinie miséricorde de Dieu. Saint-Pierre y a cru, il était pardonné. Judas n'a pas cru, il a voulu limiter, c'est un péché terrible ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit, il a voulu limiter la miséricorde de Dieu. Dieu ne peut pas pardonner mon péché parce que mon péché est trop grand. Il est impardonnable. Donc on limite la miséricorde de Dieu. C'est une façon de dire, Dieu n'est pas Dieu puisque sa miséricorde n'est pas infinie. Attention, miséricorde infinie, ça ne veut pas dire que Dieu est, comme on dit vulgairement, une bonne poire, c'est pas ça du tout. À chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les péchés, il finit toujours par la même phrase. Va et ne pêche plus. C'est ce qu'il va dire à Sainte Marie-Madeleine, c'est ce qu'il va dire à Sainte Fautine, la Samaritaine. Va et ne pêche plus. Alors, mes bien chers frères, si nous avons un petit peu de difficulté avec la confession, notre confession de carême, il faut passer par la Sainte Vierge. À l'entrée du confessionnal, il y a la Sainte Vierge, elle est là. Elle va s'agenouiller à côté de vous, se mettre debout à côté de vous au confessionnal, et puis elle va vérifier, vous aider à faire une bonne confession. Donc la meilleure des choses à faire, la plus recommandable des choses à faire avant de se confesser, c'est de passer par la Sainte Vierge. Dites un jour au Sainte Marie avant de rentrer au confessionnal. La Sainte Vierge Marie, aidez-moi à faire une bonne confession. Parce qu'elle, elle sait que son Fils est Dieu. Elle est reine du ciel. Et puisque toutes les grâces passent par elle, n'oubliez pas que les grâces actuelles dont j'ai besoin pour avoir une contrition surnaturelle de mes péchés, elles viennent de la Sainte Vierge. C'est pas elle qui les fait, ces grâces, mais les grâces passent par elle. Elle est comme le canal par lequel les grâces passent. C'est pour ça que les anciens appelaient la Très Sainte Vierge Marie le cou de l'Église. C'est le passage qui permet de faire passer le cerveau, les influx du cerveau au corps. Le cerveau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le corps, c'est nous. En passant par la Très Sainte Vierge Marie, ne nous décourageons jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais dire c'est trop tard. Dieu pardonne. Mais Dieu pardonne à condition qu'on regrette. Attention à ne pas tomber dans ce crime, parce que c'en est un. Ce crime du modernisme. Qui consiste à faire croire aux gens que Dieu pardonne tous les péchés, même si on ne les regrette pas. C'est faux. Dieu pardonne tous les péchés à condition qu'on les regrette. Si on les regrette, il pardonne. Mais si on ne les regrette pas, il ne pardonne pas. Là, c'est quelque chose que les modernes ont un mal fou à comprendre. Ils considèrent notre Seigneur Jésus-Christ comme une bonne poire, quoi, littéralement. Alors, ce qu'on fait, c'est, puis c'est tout, ça suffit. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pris les moyens pratiques de ne pas retomber? Alors Dieu pardonne. Mais si je ne regrette pas mes péchés, si je n'ai pas pris les moyens pratiques pour éviter les occasions prochaines volontaires de péchés graves, Dieu ne pardonne pas. Ah mais il pardonne tout le temps, regardez le bon larron. Oui, il y a un mauvais larron à côté. Peut-être pas oublier qu'il y a un mauvais larron aussi. Dieu a pardonné au bon larron, il a pardonné à Saint-Pierre aussi. Mais il n'a pas pardonné au mauvais larron et il n'a pas pardonné à Judas. Il y a cette phrase terrible dans l'évangile. Il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Donc ne pas se décourager, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Après la mort, c'est fini. Après la mort, on est hors du temps. Dieu ne peut plus exercer sa miséricorde après la mort. Il peut l'exercer avant, mais pas après. Parce qu'on est hors du temps, et pour changer de vie, ben, on a besoin de temps. On a besoin de la grâce du bon Dieu. On a besoin de l'usage de notre liberté. Et après la mort, il n'y a plus de temps, plus de liberté, plus de grâce du bon Dieu. Donc il faut utiliser ce temps qu'il nous donne. Et le temps de la passion qui va commencer
dimanche prochain, c'est le temps des grâces par excellence. Dieu donne plus de grâces pendant la Passion que pendant toute l'année liturgique. Donc passons par la Très Sainte Vierge Marie pour obtenir toutes ces grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.